Sud Pro, Sud Jeune et Sud Santé, des dispositifs pour relancer l'économie, pour améliorer aussi la situation sanitaire votée à l'unanimité par les élus de la province Sud. Une continuité à la tête de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, Pascal Vittori, maire de Bouloupari, a été réélu président. 2000 actes réalisés par l'unité médico-judiciaire de proximité du Medipol depuis son ouverture en septembre dernier, une unité inaugurée ce matin. Un projet lancé ce matin aussi au lycée Jules Garnier pour développer l'esprit d'entreprise chez les jeunes calédoniens. Et puis bien vieillir, ça se prépare direction Nouville dès demain pour le salon des seniors, 2 jours d'animation, 2 conseils et 2 rencontres pour rester actif et bien informé. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et à la une de l'actualité, les élus de la province Sud réunis en séance publique ce matin à l'ordre du jour, l'examen de délibérations visant à donner un coup d'accélérateur à la reprise économique. Un coup de pouce qui se décline en 3 dispositifs, 2 premiers baptisés Sud Pro et Sud Jeune, votés à l'unanimité par les conseillers. Ils ont vocation à soutenir la relance économique. Sonia Baquès, la présidente de la province Sud.
1 milliard pour les patentés et les TPE et 500 millions pour aider à l'embauche de jeunes salariés de moins de 30 ans. Donc ces 2 dispositifs disjoints pour les patentés et les TPE, c'est 250 000 francs par entreprise à condition que cet argent soit consommé dans d'autres entreprises de la province Sud et l'aide à l'embauche pour que les entreprises qui hésitent encore un peu, elles aient un petit coup de pouce qui permette d'embaucher des jeunes calédoniens.
Le 3e dispositif, baptisé lui Sud Santé, qui a également été voté à l'unanimité des élus, vise à favoriser l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie pour le recrutement d'infirmiers. Un dispositif qui va permettre d'agir à 3 niveaux, indiqué ce matin Sonia Baquès.
Au court terme, c'est-à-dire il nous manque aujourd'hui 200 postes, 200 infirmiers, donc d'aller les chercher avec un financement de billets d'avion, une aide à l'installation, une aide au loyer, etc. À moyen terme, pour aller chercher des gens qui sont en fin d'études et qu'on essaierait de motiver pour venir en stage ici, en espérant qu'ils y restent le plus longtemps possible. Et puis ensuite, une aide aux jeunes calédoniens qui voudraient se former dans la formation d'infirmiers, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de bourses. Et donc l'idée, c'est de remettre en place 10 bourses par an pour que les calédoniens se forment à la profession d'infirmier.
Et j'ajoute que nous reviendrons sur ces dispositifs adoptés ce matin par l'Assemblée de la province Sud demain matin à 7h30. C'est en effet Sonia Baquès, la présidente de l'Assemblée de la province Sud, qui sera notre invitée du matin. Et nous sommes également revenus en détail sur le dispositif Sud Pro adopté ce matin dans les Jeudis de l'économie, Jean-François Baudin.
Oui, il s'agissait d'expliquer le fonctionnement de Sud Pro et sa finalité. La volonté de la province a été de trouver une aide spécifique pour les patentés ou les très petites entreprises qui ont souvent été ou considérées comme les oubliés de la crise économique générée par les émeutes. Il fallait donc trouver quelque chose de simple, d'efficace et surtout qui ne prenne pas trop de temps et d'énergie aux patentés et petites entreprises. L'essentiel du dispositif repose donc sur un échange, a expliqué Naya Wateu, la présidente de la commission développement de la province Sud.
On met en place un principe de crédit. Ce milliard qui est dégagé en termes d'investissement, il est intégré sur une plateforme et sur les entreprises qui vont pouvoir se positionner et qui devront répondre à des critères qui sont très très simples. C'est d'avoir un RIDET en province Sud et d'être patenté ou d'avoir entre 0 et 2 salariés. De pouvoir s'inscrire sur cette plateforme et de se voir en fait crédité à partir du moment où elle répond à ces critères-là de 250 crédits Sud. Un crédit Sud égale 1000 francs, ça veut dire une enveloppe de 250 000 francs pour pouvoir aller dépenser cet argent auprès d'une autre entreprise qui elle aussi sera répertoriée. Et on vient faire matcher comme ça, j'ai besoin de quelque chose et en face j'ai une entreprise qui est en capacité de pouvoir y répondre. Ces entreprises en face, et ces vendeurs en fait, vont aussi répondre à plusieurs critères, de pouvoir être en province Sud, de pouvoir avoir certains dispositifs d'accompagnement aussi, et puis finalement de faire matcher. Ça veut dire aussi que cet argent, il est mis à disposition des structures aujourd'hui qui en ont besoin. C'est vraiment une aide à la trésorerie, c'est-à-dire que sans ça, elles ne pourraient pas continuer leur activité aussi. Mais par ce biais d'aller coller avec un besoin qui est aussi identifié, on vient simplifier la démarche.
Et pour arriver à ce résultat, il a fallu innover, a expliqué Charlène Gauthier. Elle est chef du service de l'ingénierie financière et de l'instruction à la direction du développement économique et touristique de la province.
On a fait le constat, suite aux précédentes crises, qu'on a souvent fait des plans d'urgence qui subventionnaient de manière sèche en fait, des aides à la trésorerie. Et on a décidé cette fois-ci de pouvoir créer quelque chose d'innovant. 100% numérique et 100% fluide, et aussi pour justement être plus transparent dans l'utilisation des deniers publics, puisque concrètement, une entreprise qui a entre 0 et 2 salariés va pouvoir s'inscrire sur cette plateforme. Elle aura simplement juste à mettre son RIDET, son RIB, vraiment 2-3 informations très rapides. Ensuite, elle va pouvoir donc être créditée de 250 crédits sud, qui équivaut donc à 250 000 francs, et elle va pouvoir consulter l'annuaire des autres entreprises qui se sont inscrites sur la plateforme. Et lorsque, suite à une validation d'une transaction, c'est-à-dire dépôt du devis, prestation réalisée et également dépôt de la facture, le bénéficiaire, donc l'acheteur de la prestation, va pouvoir valider auprès de son prestataire. Donc l'acheteur, l'entreprise bénéficiaire, n'aura pas à avancer de trésorerie et le prestataire sera réglé directement par la province sud sur la production de la facture.
Ce sont donc 4000 patentés ou chefs d'entreprise qui vont pouvoir bénéficier de SudPro. Les dossiers seront traités dans leur ordre d'arrivée. La mise en place de la plateforme sera effective le 5 mai prochain et elle est très attendue par les intéressés, nous ont dit Elisabeth Rivière, la présidente de la CMA, et Stéphane Yoto, le vice-président de la CCI, qui participait également à cette émission, qui est disponible en réécoute sur notre site internet rrb.nc.
Après les élus de la province sud ce matin, demain matin, ce sont les élus de l'Assemblée de la province nord qui se retrouvent en séance publique. Ce sera du côté de Conné. Ils doivent examiner 34 délibérations, essentiellement des attributions de subventions, des participations financières ou encore des dotations de fonctionnement pour plusieurs établissements scolaires. C'était aujourd'hui le troisième jour de la conférence sociale et fiscale organisée par le gouvernement sous l'égide de Christopher Gigès en charge de l'économie. Après l'emploi mardi, puis la compétitivité et le pouvoir d'achat hier, les participants ont planché aujourd'hui sur la réforme fiscale. La dernière journée, demain, sera consacrée au bilan de ces quatre jours de travail qui doit permettre de faire émerger des propositions pour réformer le modèle social et fiscal. Et puis notez dans vos rendez-vous Radio Rythme Bleu que demain, c'est Eric Deschmaker, professeur de droit privé à Melbourne, qui sera l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Cette universitaire a donné la semaine dernière une conférence sur le thème de la situation ainsi créée pour évoquer la sortie de l'accord de Nouméa. Il sera interrogé demain sur l'analyse originale qu'il développe concernant la situation de la Nouvelle-Calédonie. Il exposera aussi à cette occasion ce qu'il pense du projet d'accord politique proposé par Manuel Valls. Eric Deschmaker, invité de Transparence, est donc à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
RMB 17h52.
Continuité à la tête de l'AFM. Pascal Vittori, le maire de Bouloupari, a été réélu ce matin président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie au cours d'une assemblée générale élective, Jean-François.
Oui, il a obtenu 7 voix sur 11, tout comme le bureau. Bureau en partie d'ailleurs renouvelé puisqu'il intègre le nouveau maire de Kouaoua, Patrick Harry, qui remplace l'ancien maire Alcide Ponga, devenu président du gouvernement. Joseph Perronnet, maire de Moindou, a également intégré le bureau en tant que trésorier adjoint de l'association. 7 maires ont donc voté pour cette équipe. Les 4 qui se sont abstenus sont les maires de Nouméa, Dembéa, Bouraï et Farino. Au final, pas de grand bouleversement dans les instances de l'AFM, ce qui va permettre de poursuivre le travail entrepris, nous a dit son président Pascal Vittori.
Je m'étais présenté donc en 2024 avec un projet de soutenir les communes au sein des négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons travaillé sur un projet tous ensemble que nous avons remis à l'État et donc nous allons continuer à soutenir ce projet. Et puis, il y a bien sûr les problèmes du quotidien des communes, des représentations dans l'ensemble des institutions. Et donc, c'est le travail que nous allons continuer à faire tout au long de cette année.
Et pour le reste, l'Assemblée générale de l'Association française des maires ce matin a permis de lancer plusieurs dossiers.
On a reçu Isabelle Chamorro qui est venue nous faire un point sur l'état de l'école en Nouvelle-Calédonie et qui nous a remis un questionnaire qui va permettre aux maires d'exprimer leurs préoccupations sur les écoles de leur commune. On a également reçu Elisabeth Rivière, donc la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui est venue nous présenter la Chambre et les dispositifs qui sont mis à disposition des artisans dans les communes pour les aider à soutenir leurs entreprises dans ces périodes très difficiles. Et puis, on a reçu les représentantes de l'Agence calédonienne de la biodiversité qui sont venues nous présenter un appel à projet national qui s'appelle Atlas de la biodiversité communale en 2025.
Et lors de cette Assemblée générale, le président de l'AFM a transmis à l'État un document qui vise à renforcer les compétences et le financement des communes afin de garantir l'investissement dans des projets de proximité.
17h55, on marque une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La SUDEF au soir, Léo Fichou.
La Nouvelle-Calédonie se dote d'une unité médico-judiciaire de proximité au Medipol. Elle a pour objectif de prendre en charge les victimes et également les personnes placées en garde à vue qui doivent subir un examen ou demandent à voir un médecin, Jean-François.
Cette unité est en fonction depuis septembre, mais elle n'a été inaugurée officiellement que ce matin. En 7 mois, l'unité a déjà réalisé près de 2000 actes. Elle a reçu 500 gardés à vue et réalisé 1300 consultations de victimes, dont 60% sont des femmes. Dans cette UMJP au Medipol, située entre les urgences adultes et pédiatrique, tout est fait pour accompagner au mieux les victimes et faciliter la libération de la parole. Le docteur Céline Paré est médecin légiste et chef du service.
C'est primordial parce que si elles se sentent à l'aise, en confiance, nous on aura d'autant plus d'éléments pour nourrir d'une certaine manière nos certificats et donc pour que la justice puisse être rendue le plus justement possible finalement. Donc c'est très très important. Il arrive qu'il y ait des victimes qui soient complètement mutiques, qui ne vont pas du tout parler et finalement le traumatisme est tel qu'elles ne parlent pas et c'est préjudiciable pour elles parce qu'on a besoin de recueillir la parole et pour nous-mêmes orienter nos examens, quel type de prélèvement on peut faire. Donc c'est important que les gens se sentent bien, même s'ils vont voir un médecin légiste. Parce qu'il faut quand même avoir en tête que quand vous dites que vous êtes médecin légiste, la majorité de la population pense que vous faites que des autopsies. Parce que c'est véhiculé par les séries télévisées, les films. Mais en fait, le gros de notre activité, c'est le vivant. Et donc, c'est primordial que les gens se sentent bien accueillis et soient bien.
Cette unité médico-judiciaire de proximité comporte des salles d'examen avec des médecins, des psychologues, mais aussi une salle d'interrogatoire filmée. Le but est en effet de pouvoir tout centraliser au même endroit, souligne Yves Dupas, le procureur de la République.
C'est une forme de guichet unique ici, hein, avec des victimes qui sont d'abord soignées, notamment par le service des urgences, et qui sont ensuite prises en charge dans l'UMJ, dans ce processus judiciaire qui est déterminant. Donc c'est une belle étape pour la Nouvelle-Calédonie, pour l'intérêt général, hein, au service des Calédoniens et notamment au service des victimes de toute infraction. Hein. Ce sont les violences, bien sûr les violences intrafamiliales, les violences sur la voie publique, les violences sexuelles, les violences dans le champ de la sécurité routière. Hein. On peut parler de délinquance routière. Donc voilà un outil que la Nouvelle-Calédonie attendait depuis longtemps. Mais nous y sommes arrivés avec une volonté de l'ensemble des partenaires.
Pour l'inauguration de cette unité ce matin, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie était représenté par Claude Gambet, en charge de la santé, et par Isabelle Champmoreau, chargée des sujets liés à la famille, qui était satisfaite de voir ce projet de longue date aboutir.
C'est vraiment un sujet qu'on avait abordé dans le cadre de la feuille de route du Grenelle. C'était un engagement que la Nouvelle-Calédonie avait pris de développer avec ses partenaires. Donc c'est important, il n'y a pas évidemment que des victimes de violences conjugales ici au sein de cette UMJ. Et c'était important pour nous surtout que les victimes puissent être accueillies dans un lieu unique avec une équipe pluridisciplinaire et qui est à la fois la médecine légale mais qui est surtout tout l'accompagnement au niveau social, au niveau psychologique. Ce qui est important pour nous également, et ça c'est vraiment une marge de progression pour la Nouvelle-Calédonie, c'est la prise en charge des mineurs parce qu'on voit que les violences sur mineurs sont souvent mal connues, malheureusement se développent et c'est un des sujets aussi qu'on voulait prendre en charge dans le cadre de cette unité.
L'investissement de 300 millions de francs a été financé dans le cadre des contrats de développement. L'État a contribué aux 2/3 du montant de la facture. Le gouvernement a pris en charge le reste. Le fonctionnement annuel de l'unité sera assuré par le ministère de la Justice à hauteur de 120 millions de francs. Stanislas Alfonsi est le secrétaire général du Haut-Commissariat.
La Nouvelle-Calédonie est en effet le dernier territoire à ne pas être doté de ce type de structure. C'est donc une mise à niveau qui était plus que souhaitable. Ce résultat est l'aboutissement finalement d'efforts collectifs portés par la justice, portés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, avec les financements de l'État. C'est quelque chose qui est important à la fois pour le Medipôle, à la fois pour la justice en Nouvelle-Calédonie, et puis pour la société tout entière. Comme on le disait tout à l'heure, l'UMJ elle ne soigne pas que des gens, que des individus, mais elle contribue à soigner la société, lui faire régler ses maux. Et donc pour nous, du côté de l'État en tout cas, c'était un projet qu'il fallait impérativement soutenir et on l'a fait très volontiers.
L'unité médico-judiciaire de proximité du Medipôle est ouverte sur rendez-vous et sur réquisition judiciaire du lundi au vendredi de 7h30 à 16h. Au-delà de 16h, une astreinte téléphonique est assurée par les médecins jusqu'à 22h. Astreinte également mise en place le week-end et les jours fériés de 8h30 à 22h. Et après 22h du lundi au dimanche, c'est-à-dire tous les jours de la semaine, les médecins interviennent sur appel des forces de l'ordre.
Des jeunes lycéens se lancent dans le monde entrepreneurial. Le lycée Jules Garnier a lancé aujourd'hui son projet de mentorat entrepreneurial à l'école. Une trentaine de jeunes de classe STMG seront accompagnés par des entreprises calédoniennes. Ils mèneront à bien leur projet de mini-entreprise fictive, Charlotte Coulson.
Un projet construit autour d'une question, comment sensibiliser les lycéens aux besoins économiques du territoire tout en développant leur leadership et leur confiance en eux. Le défi peut paraître coriace, surtout pour ces jeunes très éloignés du monde entrepreneurial, mais Julie Micelli a su le relever. Elle est enseignante en économie-gestion au lycée Jules Garnier et porteuse du projet.
Alors oui, au départ, effectivement, c'est un public de seconde à la base qui est quand même très éloigné du monde de l'entreprise. Hein. Donc assez réfractaire, un peu réticent en fait quand on leur a dit qu'on allait leur parler d'entreprise. Et puis en fait, en leur disant que finalement, ils pouvaient être responsables de leur destin, de leur territoire en fait, de l'évolution de leur projet professionnel, eh bien ils sont partis de besoins qu'ils ont et ils ont défini en fait des besoins qu'ils pouvaient résoudre avec des solutions. Alors l'an dernier, on avait énormément de problèmes de mobilité. Et d'ailleurs, il y avait une idée qui avait émergé, qui était fabuleuse, qui a été exploitée pendant les émeutes, c'était la question de la navette fluviale. On s'était dit, nous on arrive en retard le matin, donc il y a des débarcadères partout, depuis Païta jusqu'au sud de Nouméa. Plutôt que de prendre le bus, on va faire une navette fluviale. Et puis ils avaient complété leur projet avec des camarades qui disaient, puisque vous faites la navette, nous on va faire la cafétéria. Ils voyaient des idées en fait s'enchaînent et ils comprennent que finalement ils peuvent être à la source d'une solution pour le territoire, d'une solution économique. Et ça leur permet de se projeter en fait.
Le projet a donc débuté il y a un an avec une classe de seconde STMG du lycée, mais c'est bien aujourd'hui que le mentorat est lancé. Maintenant en classe de première, 28 jeunes ont rencontré les entrepreneurs ce matin. À tour de rôle, ils ont présenté leur idée de mini-entreprise et parmi eux, Avelina qui est âgée de 16 ans.
On est venu pour présenter nos projets mini-entreprises. Le mien, c'est de créer des gîtes en tribu. On a pensé qu'on aimerait partager nos cultures et nos valeurs. Au début, ça ne m'intéressait pas, mais grâce à ma prof de STMG, Mme Micheli, on a su être intéressés. Elle nous a poussés à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est ça qui nous a donné la motivation de vouloir savoir ce que c'est le monde de l'entrepreneuriat.
Et là, le fait d'avoir tous ces chefs d'entreprise en face de vous, c'est pas un peu intimidant? Qu'est-ce que vous ressentez?
Si, c'est très intimidant même. C'est la première fois, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais ça nous pousse aussi à être plus professionnels. Ils vont beaucoup nous apporter, parce que pour l'instant, on en sait des choses, mais on a besoin d'enrichir encore pour pouvoir bien aboutir à nos projets.
De même que ces 28 jeunes de première, une trentaine d'autres lycéens de seconde ont aussi débuté leur parcours entrepreneurial cette année. Et c'est lorsqu'ils seront en terminale que les entreprises les aideront à élaborer leur business plan. Il leur faudra imaginer un plan de stratégie commerciale, de gestion financière et de ressources humaines, ou même de développement numérique. En bref, des apprentissages que l'école n'aurait pas su leur apporter, selon Emmanuel Hérin, délégué académique à la formation initiale et continue au vice-rectorat.
L'idée, c'est de développer l'entrepreneuriat, de leur apprendre comment avoir l'esprit d'entreprendre, avec un partenariat avec les entreprises, qui est très clair, puisque évidemment, l'esprit d'entreprendre, on ne peut l'avoir qu'avec des entreprises qui vont communiquer leur savoir-faire. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment ce rapprochement entre l'école et l'entreprise pour que les jeunes aient envie de développer cet esprit, de pouvoir aussi s'investir dans le futur et dans le développement du territoire en créant éventuellement des entreprises et avoir des projets de développement d'une idée ou d'un service en fonction de leur choix.
Et ce projet de mentorat entrepreneurial à l'école est réalisé sous l'égide du vice-rectorat en partenariat, entre autres, avec le gouvernement, le MEDEF et la CCI.
RRB, il est 18h04.
Au chapitre des faits divers, maintenant, deux enquêtes ouvertes. La première à Tontouta après l'incendie cette nuit d'une maison dans le sud du village. À l'arrivée des pompiers aux alentours de 7 heures, la maison était totalement détruite. Le portail d'entrée avait été forcé, bloquant l'accès au terrain. La piste criminelle est donc pour l'instant privilégiée. Fort heureusement, la maison était inoccupée au moment des faits. Aucun blessé n'est donc à déplorer. Et puis, seconde enquête ouverte du côté de Puebo après le cambriolage. C'était le week-end dernier de l'école maternelle de Balade. C'est le personnel enseignant qui a découvert la porte de la cantine fracturée lundi matin. Porte qui a été réparée dans la journée pour que les classes puissent reprendre malgré le cambriolage. Les voleurs ont notamment dérobé des œufs de Pâques. Attention aux arnaques sur Facebook. Dans un communiqué, la ville du Mont-d'Or alerte sur de faux profils qui circulent au nom du maire de la commune, et dit le Courrier. Ces faux comptes utilisent le réseau social pour récolter des données personnelles, voire solliciter des parrainages. La ville du Mont-d'Or tient donc à rappeler que le maire n'a pas de profil personnel officiel sur aucune plateforme. Il ne faut donc surtout pas répondre à ces messages et au contraire les signaler sur le site Pharos à l'adresse suivante internet-signalement.gouv.fr. Direction Nouville maintenant, où la maison des artisans accueillera demain et samedi le salon des seniors. Et donc, durant deux jours, les visiteurs découvriront de nombreuses animations ludiques et sportives qui seront donc proposées, mais également des interventions sur l'épargne retraite, la santé ou encore le service de soins à domicile. Les précisions de Bruno Aurelio de Pacific Fair.
Que vous soyez un senior actif ou si vous cherchez effectivement des activités, voilà, si vous êtes senior actif, si au contraire vous cherchez une solution d'aide à domicile ou un établissement de santé pour un aîné, un proche, un parent. Donc venez sur le salon, vous verrez, c'est à la fois instructif, ludique. On va danser également, parce qu'on a organisé, on voulait que ce soit un salon dynamique, donc il y aura des défilés avec les mamies de la CAPA. On aura également de la danse en ligne, on aura des dansants, des petits concerts, voilà, des expositions avec l'association Témoignage d'un passé. Donc vraiment, on va pas s'ennuyer pendant deux jours, je vous le promets. On va s'instruire, on va apprendre plein de choses, on va se renseigner.
Et le Salon des Seniors, c'est donc de 8h à 18h demain et samedi à la Maison des Artisans de Nouville. L'entrée sera libre et gratuite.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec notre question du jour. Est-ce, selon vous, le bon moment pour lancer une polémique sur le permis de conduire calédonien? Si vous pensez que c'est le bon moment, vous tapez 1. Si vous pensez que ce n'est pas le bon moment, vous tapez 2. Et vous envoyez, comme d'habitude, votre réponse par SMS. La réponse à notre question d'hier, maintenant, 84% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés se disent attristés par le décès du pape François. Ils sont 16% à ne pas partager ce sentiment. Et justement, l'actualité religieuse, nous y reviendrons juste après une seconde pause.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atout SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal est au fichu.
À l'actualité religieuse, les cardinaux du monde entier se dirigent vers Rome pour participer samedi matin aux obsèques du pape François. Ils resteront ensuite sur place pour la préparation du conclave. 135 cardinaux électeurs devront élire le successeur du pape François. Et parmi eux figurent 4 cardinaux océaniens. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces 4 cardinaux ont pour nom Soane Mafi, évêque de Tonga et de Niue, John Ribat de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mikola Bitchok d'Australie et John Dew de Nouvelle-Zélande. ces quatre prélats figurent parmi les cardinaux qui auront pour mission d'élire le nouveau souverain pontife. Le décès du pape François vient par ailleurs de faire l'objet de commentaires officiels dans le Pacifique Sud, à commencer par celui du premier ministre papou, James Marape, qui a déclaré que, je cite, « sa disparition est une perte pour l'humanité tout entière ». Il était un père spirituel pour plus d'un milliard de catholiques à travers le monde, a-t-il ajouté, et son message était un message d'unité, d'inclusion et d'espoir. L'héritage de foi, de compassion et de service que François laisse derrière lui continuera d'inspirer des générations au sein de l'Église catholique et au-delà, a quant à lui déclaré le chef du gouvernement fidjien, Sitiveni Rambuka. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et je vous rappelle qu'une messe en hommage au pape François sera célébrée demain soir à 18h à la cathédrale de Nouméa. Elle sera présidée par l'archevêque, Monseigneur Soussitino Sionepoé.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Le sport et du football pour terminer ce journal. La Super League va enfin reprendre. La date de reprise n'a pas encore été officialisée par la Fédération Calédonienne de Football, mais cela ne devrait plus tarder. Après des semaines de discussions, de négociations même entre les élus de la Fédération et les clubs, la compétition reprendra, notez bien, le samedi 17 mai. Et cette saison, la Super League devrait se disputer dans un format modifié, adapté à la situation de reprise. Le championnat classique réunissant toutes les équipes devrait être remplacé par deux poules, puis par des phases finales. Enfin, il n'y aura pas que le football qui reprendra le samedi 17 mai, mais aussi le futsal. Et puis un mot d'athlétisme aussi pour signaler qu'hier avaient lieu les coupes sprint, mais aussi et demi-fond à Boulari et à Lifou. Une compétition en l'honneur des figures de l'histoire de l'athlétisme calédonien qui a rassemblé près de 80 athlètes et une douzaine de jurys. On retiendra les très bons résultats de Vadim Strougar, Loan Ville, René Graille ou encore Florian Girard. La deuxième des trois étapes est prévue mercredi prochain. Ce sera du côté de Boulari, mercredi 30 mai. 18h passées de 11 minutes après le sport, on fait le point sur la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, le temps restera gris et pluvieux sur la majeure partie du territoire. Sur la façade est, les loyautés et les pointes nord et sud des averses seront fréquentes, parfois fortes et orageuses. Le vent deviendra généralement variable faible, mais il soufflera encore en soirée de nord-est à est, proche de 10 nœuds de marée à l'extrême sud. Les températures de la nuit seront généralement comprises entre 22 et 24 degrés. Demain matin, le ciel restera très nuageux à couvert. Sur l'ouest, les averses seront éparses. Ailleurs, elles seront nombreuses. Sur les extrémités nord et sud, l'île des Pins, les Loyautés et la côte est, elles pourront être localement fortes et ponctuées d'un coup de tonnerre. Le vent d'est à nord-est soufflera généralement de 5 à 10 nœuds, voire de 10 à 15 nœuds sur les pointes nord et sud, l'île des Pins et Maréléo.
Merci beaucoup Nicolas, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour faire un dernier point sur l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique.